Et puis, si vous voulez vous identifier. Et puis...
Mais sans faute, I'd like to say hello to everyone here. I've been with you all day.
Donc, je voudrais vous saluer tous. J'ai été là toute la journée. Je m'appelle Tyler Rudolph. Je vous donnerai plus de renseignements tout à l'heure, mais je voudrais tout d'abord remercier le COMEX du sérieux avec lequel il aborde ce dossier et de l'attention donnée à tous. Nous remercions aussi les gens de la communauté de si bien nous recevoir et aussi nous nourrir. Ça a été une journée tellement longue et j'espère être éloquent malgré la fatigue. Pour situer le contexte, j'ai été conseiller auprès du gouvernement de la nation CRI depuis 2011-2012. Donc, j'ai participé à la rédaction du rapport qui a été mentionné. Maintenant, je suis au comité technique pour le rétablissement du Caribou. Je représente aussi une Première Nation au sein de ce groupe. Et ce qui est intéressant, je fais partie d'un groupe de travail dont le mandat est d'élaborer des lignes directrices pour l'étude d'impact environnemental en ce qui a trait justement au Caribou pour des gens comme vous. Donc, je voudrais tout d'abord reconnaître qu'il y a beaucoup d'experts du Caribou dans cette pièce. J'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns. Je suis heureux d'être accueilli sur leur terre traditionnelle. Je les en remercie. Donc, nous avons des compétences complémentaires. Donc, les connaissances scientifiques modernes d'un côté et les connaissances traditionnelles de l'autre. J'ai commencé à m'intéresser au Caribou en 2012 en tant que stagiaire auprès du ministère des Ressources naturelles de l'Ontario. Ensuite, je suis devenue écologiste. Je suis venue à Montréal pour commencer ma maîtrise sur le Caribou de la baie James. Et j'étudie le comportement, la démographie de cette population de Caribou depuis ce temps-là. Je suis le conservateur principal de toutes les données qui existent pour la région. J'ai probablement fait le plus de modélisation que quiconque. Et je suis ici pour présenter des données scientifiques et je suis heureux d'être ici. Donc, Michel a mis à l'écran cette carte, mais nous allons plutôt regarder la carte des routes proposées avant de se pencher sur les coupes proposées au cours des prochaines années. Donc, tout d'abord, pour commencer, je voulais vous soumettre cette notion de seuil. Il est important de bien comprendre de quoi il s'agit, quelles ont été les méthodes utilisées par le promoteur lors de son étude d'impact la plus récente. Donc, en substance, quand on parle de seuil écologique, on parle d'une relation non linéaire. Donc, disons que au fur et à mesure que les perturbations augmentent, Les choses vont assez bien, la population est assez stable et commence à diminuer. Et à un moment donné, à peu près 35% de perturbations selon la méthode d'Environnement Canada. Donc, ça commence à diminuer assez rapidement. Et donc, c'est une zone de plus grande incertitude et on arrive à 45% et tout en bas. Donc, c'est une relation non linéaire. Il est important de comprendre qu'on a choisi 35% comme seuil de précaution et du point de vue scientifique, c'est le point que l'on ne souhaite pas atteindre. Mais l'objectif, c'est de ne jamais atteindre ce seuil. Ce n'est pas du tout un objectif de gestion. C'est ce qu'on fait malheureusement. Et malheureusement, justement, au Québec, la grande majorité de la province, pour la grande majorité, donc, on a déjà dépassé ce seuil de 35% de perturbation. Donc, il y a eu une présentation des compagnies et je vous salue également. Vous avez été très patient, poli. Et sur une des diapos, on voit la forêt. Donc, une zone qui a été circonscrite et ensuite on voit une carte pour les années suivantes. Mais ce que je voudrais signaler ici, c'est que la zone que vous avez encerclée, entourée, c'est la forêt intacte restante. Donc, étant donné que c'est une des dernières, qui change constamment les cartes, difficile de voir ce qui se passe.
So just a word to the technician or whoever.
Yeah, maybe zoom out.
Donc, on pourrait peut-être sortir du zoom. Mais en fait, je me reportais à la présentation qui a été faite plus tôt. C'est un des derniers refuges intacts pour le caribou forestier. C'est une forêt intacte. Il en reste pas beaucoup. Il y a eu la présentation de Greenpeace tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est quand on calcule le taux de perturbation dans cette zone, en fait, la plus grande forêt intacte qui reste, on en est à 42% de perturbation. Et ce n'est même pas la bonne échelle à utiliser parce qu'on ne peut pas décider de façon arbitraire. Voici le taux de perturbation. La population est viable ou elle n'est pas viable. Je pourrais en parler plus longuement, mais j'aimerais qu'on revienne au cliché de tout à l'heure. C'est le numéro 36.
If I could, to do with cumulative impacts.
Donc, si vous me permettez de passer aux effets cumulatifs, il y a une étude de l'impact cumulatif sur le caribou. Et en ce qui me concerne, la seule échelle qui puisse être utilisée, c'est celle de la population. Ça a été fait en 2012. C'est dans le rapport. Je fais rapport du taux de perturbation, souvent bien au-delà de 35%. Donc, ici, c'est 42%. Et s'il y a encore 2 ou 5 ans de coupe, on en sera à 45%. Et déjà, on a dit que ce n'était pas autosuffisant en théorie, mais l'idée d'utiliser le niveau de perturbation pour décider de le taux suffisant de la population, En fait, c'est un outil qu'on utilise sans disposer de toutes les informations requises. Mais en fait, il existe l'information. Donc, je voudrais mentionner quelques extraits que je ne peux pas vraiment accepter dans l'autosuffisance du caribou forestier. On a dit que c'était incertain dans la zone d'étude. On pourrait parler de viabilité régionale, mais ça ne fonctionne pas vraiment. En fait, on parle plutôt, on est... Donc, vous dites, si on regarde la situation d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que la population soit autosuffisante. Il y a un risque élevé. Eh bien, dans le rapport de 2012, on a déjà conclu que ce n'est, qu'il n'était pas autosuffisant. Et si nous avons vraiment fait un inventaire de la population en 2013, données de meilleure qualité, meilleure couverture, nombre de bêtes, et c'est quand même, on est arrivé à un résultat négatif. C'est tout simplement un fait. Donc, il y a beaucoup de zones crises et je suis ici, en fait, pour dire de façon très claire qu'il n'y a pas vraiment de zone grise. Il y a l'aire de répartition. Est-ce qu'il y a perturbation, par exemple, pour Assinica? Il y a une diminution de la population chaque année. Quel est le recrutement? Nous le mesurons au printemps chaque année. Nous l'avons fait pendant une décennie. C'est très bas. Donc, il y a une diminution, une baisse. Voilà, c'est ce que nous disions dans notre rapport de 2012. Je ne veux pas trop insister là-dessus, mais c'est aussi simple que cela. Si on parle de l'approche de précaution, donc... dans 2 ou 5 ans, ce sera 45%. Et dans 20 ans, ce sera quoi? À quoi ça va ressembler? Il y aura encore plus de violets. Et je peux vous dire que ça va ressembler à toute parcelle qu'on peut analyser au sud de cette zone. Est-ce qu'il va y avoir encore du caribou? Eh bien, je peux dire de façon... avec beaucoup de confiance, qu'il n'y aura plus de caribous. Il y aura peut-être quelques têtes de bêtes résiduelles. Et on en vient à ce qui a été dit. Il y a eu une très bonne analyse. Il y a des choses qui pourraient être mieux faites. Et on parle encore de l'aire de répartition de la population. Il y a chevauchement entre les aires de Assinica et Nottoway. Et on avait demandé de faire une étude quantitative de connectivité entre leurs habitats. Et si vous regardez les deux populations, Assinica et Nottoway, la forêt la plus importante du point de vue du maintien du paysage pour ces deux populations. Et l'aire de répartition de Nottoway n'est pas très perturbée, c'est à peu près 33%. Ce n'est pas surtout de la forêt, mais il y a de la forêt aussi. Donc, il y a une baisse rapide de la population à Sinica. S'il n'y a pas de récolte importante, eh bien, il faudra que d'autres animaux se joignent à cette harde. Et s'il n'y a pas échange génétique entre ces deux hardes, eh bien, les perspectives à long terme ne sont pas très positives.
Par exemple, dans tout ce que j'ai dit, mais tout à l'heure, on parlait d'autres exemples. À l'est du lac, par exemple, il y a des blocs de coupe. Bon, pourquoi vous présentez cela? Bon, mais je pense qu'il faut essayer de voir les choses dans la perspective des impacts cumulatifs. Comex est très important. Peut-être il y a beaucoup de projets qui misent les uns sur les autres, mais dans la perspective du caribou, ça touche les populations tout en même temps. Même si on a beaucoup d'utilisation qui a été vraiment enregistrée par le caribou, mais dans le passé récent, on a toutes les connaissances des trappeurs de la région. Bon, ça nous a un peu éclairé sur l'étendue de la population, sur le parcours de cette population. Donc, il y aurait beaucoup de choses à ajouter au fur et à mesure. On ne peut pas dire que la coupe en mosaïque a été bonne pour les caribous. Ça crée des routes et c'est très difficile pour eux. Donc, c'est vraiment pas bon pour le caribou. Est-ce qu'on peut régler ce problème? On en a déjà discuté. Je pense que la coupe en mosaïque, ça marche pour les cris. Mais ce serait difficile à réaliser. Alors, comme les routes sont le principal problème, est-ce qu'on va réparer les routes? Je pense que la réponse à cela, c'est de toute évidence, c'est non. Est-ce qu'on a des preuves de remise en état des routes au cours des dernières années? Je dirais non. On a beaucoup de gens qui écrivent là-dessus. Ils obtiennent des certificats. Mais est-ce que ça se concrétise? Non. Est-ce que ça se complique? Est-ce que c'est compliqué? Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes juridiques? Ça coûte cher dans bien des cas. Est-ce que c'est réaliste à une échelle comme ça? Non, pas vraiment. Donc, si on essaye d'investir dans la protection à cette étape, pour permettre à la population de caribou de se rétablir. Je l'ai déjà dit auparavant, les meilleures chances que nous ayons de réussir pour assurer le rétablissement de la population, c'est en protégeant autant d'habitats que possible, et surtout les plus importants. Je l'ai déjà dit. Il y a une dernière chose importante que j'aimerais dire. Ça fait déjà quelque temps que je parle. J'aimerais vous parler de résilience et de l'approche de modélisation pour envisager les perturbations dans l'avenir. Il y a des données forestières et écoforestières à plus forte résolution. Est-ce qu'elles sont meilleures que l'imagerie satellite? Dans la recherche, on ne veut pas avoir une trop forte résolution. Pour les caribous, j'ai vu beaucoup d'études où c'est de 100 à 200 mètres jusqu'à 500 mètres. Est-ce que c'est mieux quand on envisage l'avenir? Quel serait le taux de perturbation dans 20 ans, par exemple, dans la région qui nous occupe? Ça, c'est une question. Et mon autre question, quels seraient les impacts du feu dans 20 ans? Et comment c'est pris en compte dans nos calculs? Est-ce qu'il y a un risque élevé de feu dans cette région, incendie? Oui, bien sûr. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les prévisions à plus long terme ont permis. Enfin, non, on sous-estimait le degré de perturbation qui pourrait se produire dans cette région. Je ne pense pas que la stratégie actuelle. Bon, il y a des simulations qui ont été faites en fonction de l'approche de précaution. Mais dans 100 ans, quelle rotation va se faire? Alors, à 35, c'est mieux que n'importe où ailleurs au Québec, d'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gros sacrifices à faire. Ça, c'est pas à moi d'en décider. Et c'est bien comme ça. Je ne peux répondre, me prononcer que sur la question du caribou. Donc, excusez-moi d'avoir parlé aussi franchement. Il est assez clair que, par exemple, si on coupe tout maintenant, on va avoir des arbres, des restes d'arbres par terre. C'est 98% qui se trouve à cet endroit. Au nord de la Broadback, vous voulez dire. Attendez, je l'ai noté quelque part. Vous dites que c'est là qu'il y a du chevauchement. Oui, je l'ai trouvé. Donc, on pourrait clarifier ça. J'ai une présentation et j'ai... Mais c'est important. Donc, bien sûr, on pourrait tout couper. Ce n'est que 42%, ce sera 45%, ce sera beaucoup plus dans 20 ans. Il y aura eu des feux, les estimations futures. Ça c'est plus des simulations, en fait. Mais c'est sous-estimé quand on dit que ça pourrait être une fois et demie plus de perturbations. Donc, quoi qu'il en soit, dans cette région-là, et qu'est-ce qui se passe si, en cas d'incendie? Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faudrait attendre que la situation se rétablisse. Si on envisage les choses à plus court terme, on dit, bon, il n'y a pas de feu, ça va se régénérer par soi-même. Bon, il y aura une perte d'habitat fonctionnel avec la construction des routes. Bon, il y aura une perte d'habitat avec les routes. Comme j'ai dit, à ce moment-là, je recommanderais qu'on utilise le comportement des caribous en hiver, tout comme le modèle que j'ai déjà décrit. Il y a un point d'inflexion qui est à 1,5 km, donc c'est plus précis parce que c'est un reflet du comportement des caribous. Tandis que dans d'autres modèles, par exemple 500 mètres, ça c'est l'approche d'Environnement Canada, qui prévoit la perturbation. Et la perte d'habitat fonctionnel, c'est le comportement d'évitement. Oui. Ça correspond à 1,5 km. Bon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il me reste 3 minutes. Ah, c'est ça que je cherchais. Quand j'ai fait ma maîtrise sur le caribou forestier de la Jamésie, j'ai étudié la mortalité des femelles, entre autres, quand elles portent leurs petits, elles se déplacent, elles parcourent des distances importantes. Leur réserve d'énergie est faible. Donc, on a calculé le taux de mortalité des adultes. Mais quel est le parcours que les animaux prennent pendant la dispersion du printemps? pour aller à leur site de Misba. Et c'est une zone protégée. Et c'est un site où elles ne seront pas détectées par les prédateurs, par exemple un ours brun ou des loups. Environnement Canada a fait cette étude avec des petits. Et il y a d'autres études qui ont été faites pour les adultes. Alors, les femelles qui se déplaçaient jusqu'à leur site de Misba, elles se trouvaient dans un rayon de 30 kilomètres de secteur où il y avait beaucoup de routes. Et quelquefois, c'était des endroits où il y avait plus de routes. Et quelquefois, les animaux parcourent en cercle. Et ils étaient près d'un réseau routier. Donc, la mortalité des jeunes animaux était plus élevée. Mais là où il y a plus de routes, ils parcourent des distances plus grandes. Et là, ils arrivaient mieux à élever leurs petits. Donc, les routes peuvent avoir un impact sur certains comportements jusqu'à une distance de 15 km. Et je ne suis pas le seul à le dire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas de feu. On a fait toutes ces coupes. Ça ressemble à partout ailleurs dans cette région. Il y a une possibilité qu'on ait créé des conditions qui se répercutent sur les caribous qui fréquentent encore la zone au nord de la rivière. Et le front de coupe est tellement proche des endroits où ces animaux sont très présents. Alors, ça va se répercuter sur eux, que ça leur plaise ou non. Donc, il y a une telle zone tampon à cet endroit, mais ça va faire augmenter le taux de perturbation et vous allez mettre en péril une bonne partie de cette forêt, qui est la forêt la plus importante qui est une partie très très importante. Bon, nous allons réviser votre déclaration. Si vous voulez nous l'envoyer, si vous la modifiez, n'hésitez pas. Oui, je comprends. De plus en plus, je comprends la question difficile et complexe de l'établissement d'une échelle. Vous avez devez établir des hypothèses avant de décider quelle sera l'étude, l'échelle de l'étude. Qu'est-ce que vous entendez par régional? On avait de très bonnes données depuis qui remontaient à plus d'une décennie. Donc, on peut évaluer très précisément la vulnérabilité du caribou dans les contours de leur parcours. Donc, c'est là qu'on peut évaluer les taux de perturbation. Comment vous établissez le contour? Nous avons une photo de là où il se trouve. Comment vous établissez le contour? Bon, vous faites un zoom, vous essayez de voir là où il y a un chevauchement de population. Vous regardez les choses dans leur ensemble. Mais c'est une méthode quantitative et objective. La définition des contours, c'est une question de probabilité. Enfin, on étudie la probabilité, les intervalles, etc. Quand vous parlez des contours du parcours, c'est une question que je me posais plus tôt. Il semble que vous dites la même chose. Bon, là, on parle du contour, mais où sont les caribous? C'est là qu'ils ont toujours été. Mais le contour suit exactement l'endroit des activités. Il y a un peu de chevauchement ici, parce qu'on a des données qui remontent à 10 ans. Alors, l'aire de répartition, c'est évidemment là où se trouvent les caribous, mais la relation est très, très forte. On va... peut-être que la semaine prochaine, on devrait publier un article sur la conservation. Donc, c'est une étude très approfondie. Et la conclusion, c'est que 25%, c'est assez exact. D'après le modèle que nous avons testé, à l'aide de nos données empiriques, et c'est assez sensible au changement. Par exemple, s'il n'y a plus autant de femelles, s'il n'y a pas un bon ratio de femelles par rapport aux mâles, eh bien, à ce moment-là, vous n'aurez plus assez de recrutement pour compenser la mortalité des adultes. Donc, c'est toujours une question d'équilibre et 35%, c'est une moyenne qui découle du modèle. Vous ne voulez pas aller au-delà de 25% si possible, et vous avez aussi le choix de continuer parce que vous trouvez que c'est une zone vraiment intéressante et que les choses ne vont pas si mal. Par exemple, les promoteurs considèrent que le caribou forestier est toujours un atout pour la viabilité. Je ne suis pas sûre que les promoteurs soient bien placés pour tirer ce genre de conclusion. Ça, c'est mon opinion professionnelle. Ils ont mentionné que l'étude d'Environnement Canada était viable, mais en fait, ils n'avaient même pas les données. Donc, pour eux, tout le nord du Québec était synonyme de population de caribou, mais enfin, c'est quand même pas si simple que ça. Donc, excusez-moi, Brian a une question à vous poser. Oui, j'ai une question. À Waskaganish, dans la communauté de Waskaganish, dans cette zone, ça, c'est loin de la rivière North Way. Je pense que c'était à peu près à 40 000 au sud de Waskaganish. Il y avait une harde de caribous à ce moment-là. C'est la première fois que je suis allée dans cette communauté. Et les gens chassaient les caribous. Il y en avait plusieurs. Peut-être 200 ou 300 dans cette région. C'était à quelle période? C'était au printemps, au début du printemps. Le caribou forestier a beaucoup de migrations. Est-ce qu'ils vont d'une région à l'autre? Est-ce qu'il est possible que tous les 30 ans, par exemple, ils changent d'endroit parce qu'ils manquent de nourriture? J'aimerais avoir des données pour soutenir cette hypothèse, mais rien ne semble indiquer le contraire, surtout à cause du phénomène de fidélité au lieu. Les femelles reviennent toujours à un endroit donné depuis que j'étudie ça. En fait, c'est toujours dans un rayon de 20 km, là où elles mettaient bas. Donc, quand vous pensez à la taille de cette région, ce n'est pas grand-chose. Elles changent souvent leur camp d'hiver, mais elles reviennent. Et c'est uniforme partout. Et vous savez, je suis d'accord et je reconnais un travail intéressant qui a été fait sur le caribou forestier vers l'an 2010. C'était avec les fonds d'Environnement Canada. Ils ont remarqué aussi dans la région de Nemaska qu'il y avait des caribous là-bas, des caribous forestiers. Et il y avait plusieurs individus qui restaient là. Bon, peut-être, je me disais peut-être qu'ils avaient suivi les caribous en migration. Mais finalement, ils revenaient. Mais en fait, ils ont des animaux résidents qui sont là depuis de nombreuses années. Et il y avait d'autres petits groupes, d'autres groupes plus petits. Et quand vous regardez l'habitat et le nombre d'animaux que nous avons au nord, en fait, quelquefois, ils vont vers le nord, puis ils reviennent. Il n'y a pas beaucoup d'activités des caribous forestiers qu'on a pu repérer. Quand je dis « nous », je parle aussi des biologistes du gouvernement provincial, mais c'est un secteur qui mériterait de recherches plus poussées en collaboration avec la population CRI. Ce serait intéressant à faire. Mais on sait que cette population que nous observons est assez particulière. Merci.
That would be our last presentation, and
ce serait notre dernière présentation.